Monseigneur Robert d'Artois.
La neige fondante s'égouttait des toits, partout on balayait, partout on fourbissait. Le logis de garde retentissait de grandes claques d'eau jetées par seaux sur le dallage. On graissait les chaînes du pont-levis, on sortait les fourneaux à faire bouillir la poix, comme si la citadelle allait être attaquée sur l'heure. Depuis Richard Cœur de Lion, Château-Gaillard n'avait pas connu pareil branle-bas. Redoutant une visite impromptue, le capitaine Berzumet avait décidé de mettre sa garnison sur pied de parade. Les poings aux hanches et le gueuloir ouvert, il parcourait le casernement, s'emportait devant les épluchures qui souillaient les cuisines, montrait d'un menton furieux les toiles d'araignée qui pendaient les poutres, se faisait présenter les équipements. Tel archer avait perdu son carquois. Où était-il, ce carquois? Et ses cottes de mailles rouillées aux emmanchures. Allez, qu'on prenne du sable à pleine main, et qu'on frotte, et que cela brille. « Si messire de pareil vient à nous tomber sur le dos !» hurlait Berzumet. « Je ne tiens point à lui montrer une troupe de mendiants. Mouvez-vous » Et malheur à qui ne courait pas assez vite. Le soldat Gros Guillaume, celui qui espérait une ration de vin supplémentaire, prit un grand coup de pied dans les tibias. Le sergent Lalaine était exténué. À piétiner la boue neigeuse, les hommes rapportaient dans les bâtiments autant de saleté qu'ils en ôtaient. Les portes battaient. Château-Gaillard ressemblait à une maison qu'on déménage. Si les princesses avaient voulu s'évader, c'eût été le moment à choisir entre tous. Au soir, Berzumet n'avait plus de voix, et ses archers somnolaient sur les créneaux. Mais quand le surlendemain, aux premières heures de la matinée, les guetteurs aperçurent dans le paysage blanc, le long de la Seine, une troupe de cavaliers qui approchait bannière en tête, sur la route de Paris, le capitaine de forteresse se félicita des dispositions qu'il avait prises. Il enfila rapidement sa meilleure cotte de maille, noua sur ses bottes des éperons longs de 3 pouces, se coiffa de son chapeau de fer et sortit dans la cour. Il eut quelques instants pour regarder avec une satisfaction inquiète la garnison alignée dont les armes luisaient dans la lumière laiteuse de l'hiver. « Au moins, on ne pourra point me reprendre sur le chapitre de l'ordonnance, » dit-il. « Et cela me rendra plus fort pour me plaindre de la maigreur de ma solde et des retards qu'on met à me bailler l'argent avec lequel je dois nourrir mes gens. » Déjà les trompettes sonnaient au pied de la falaise. Et l'on entendait les sabots des chevaux frapper le sol crayeux. « Les herses ! Le pont !» Les chaînes du pont-levis tremblèrent dans leur glissière, et une minute plus tard, 15 écuyers aux armes royales, entourant un grand cavalier rouge posé sur sa monture comme s'il figurait sa propre statue équestre, franchissaient en trombe la voûte du corps de garde et débouchaient dans la seconde enceinte de Château-Gaillard. « Est-ce le nouveau roi ? » pensa Berzumet en se précipitant. « Seigneur, est-ce déjà le roi qui vient chercher sa femme ? » Son souffle était tranché par l'émotion. Il fut un moment avant de pouvoir distinguer clairement l'homme au manteau sang de bœuf, qui avait mis pied à terre et, colosse de drap, de fourrure, de cuir et d'argent, se fendait un chemin parmi les écuyers. Une large buée fumante montait du poil des chevaux. « Service du roi !» dit l'immense cavalier en agitant sous le nez de Berzumet, sans lui laisser le temps de le lire, un parchemin auquel pendait un sceau. « Je suis le comte Robert d'Artois !» Les salutations furent brèves. Monseigneur Robert d'Artois fit fléchir Berzumet en lui posant la main sur l'épaule afin de marquer qu'il n'était point hautain. Puis il réclama du vin chaud pour lui et toute son escorte d'une voix qui fit se retourner les guetteurs sur le chemin de ronde. Depuis la veille, Berzumet s'était préparé à briller, à se montrer le gouverneur parfait d'une forteresse sans défaut et à se conduire en sorte qu'on se souvînt de lui. Il avait même une harangue toute prête. Elle lui resta dans la gorge pour jamais. Il s'entendit bredouiller le pauvre flagornerie, se trouva invité à boire le vin qu'on lui demandait et fut poussé vers les 4 pièces de son logement dont les proportions lui parurent rapetissées. Jusque-là, Berzumet s'était toujours jugé homme de belle taille. Devant ce visiteur, il se sentait nain. « Comment se portent les prisonnières ? » dit Robert d'Artois. « Fort bien, monseigneur. Elles se portent fort bien. Je vous en remercie. » répondit Berzumet sottement, comme si on lui demandait nouvelles de sa famille. Et il avala de travers le contenu de son gobelet. Mais déjà Robert d'Artois sortait à grandes enjambées, et l'instant d'après Berzumet escaladait derrière lui l'escalier de la tour où logeaient les recluses.